Vous êtes sur le vaisseau rouge avec Helmut Schwartz, Johnny Tiefbeck, Hamza Mektoub, le professeur Schmidby, Jean Nin, Eric Ziguiwi. Tous les mercredis à 21h sur Jet FM. Ok?
Vaisseau rouge numéro 10, l'extermination démocratique. Ça veut dire exactement, on va voir ça en lisant Ignazio Silone dans l'école des dictateurs, on va approfondir ça. Et plus tard, on aura un entretien avec les éditeurs, La Lenteur. L'école des dictateurs ouvre les yeux sur l'esprit humain. Je trouve. Ouvre les yeux et dans la capacité du moins d'ouvrir les yeux sur l'esprit humain. Des politiques sociales, dirons-nous, en passant par le contrôle des puissants sur les masses, de coups d'État permanents, on verra ça avec François Mitterrand tout à l'heure, jusqu'aux familles, c'est important de ramener ça aux familles, les dictatures, plus ou moins. À juger, hein, où peut se mener donc un certain totalitarisme vis-à-vis de la tête de la famille, s'il y en a une, comme dans toutes quasiment, voire des actes de terreur aussi, par les enfants souvent. Donc c'est à apprendre au second degré, bien sûr, mais il faut bien essayer de s'identifier pour après comprendre un peu mieux. Et d'ailleurs, à propos de ça, il y a un coup de plus ou moins de génie quand même qui se fait avec France Inter, une radio que je n'aime pas plus que ça, mais que j'écoute, et enfin j'ai pas le choix. Et puis il y a une France Inter pour enfants qui est sortie le 16 octobre. Donc aujourd'hui on est combien? C'est aujourd'hui que ça sort. L'émission va passer en novembre ou je sais pas, décembre, fin d'année. Mais c'est bien en fait, les enfants vont éventuellement s'intéresser à la culture, et à partir de là, les adultes aussi. Des adultes et des enfants, du moins. N'allez plus voter. On sera toujours perdant avec la droite et la gauche, alors que les partis extrêmes dénatureront leur propre politique pour petit à petit se diriger vers une dictature. Maintenant, on va essayer d'aller voir d'un peu plus près tout ça avec l'école des dictateurs de Ignazio Silone, paru, je le répète, aux éditions La Lenteur. Alors, c'est une réédition. Alors, ça date de 62, ces rééditions de 2025. Et ça a été réédité entre les deux en 2018. Et l'école des dictateurs, 1938, entre parenthèses. Plus loin, là, on est dans la préface, avant-propos de l'éditeur. L'alter ego de Silone donne à voir avec brio les conditions d'apparition du fascisme. Et c'est là que c'est important, c'est intéressant. L'épuisement du système parlementaire et la bureaucratisation. Se met en lumière ses principales caractéristiques. Rappelons l'invasion. Alors là, c'est bien, il y a une actualisation avec le quotidien actuel, l'actualité. Rappelons l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine en 2022, dont les prémices remontent à l'annexion de la Crimée en 2014, la nomination également en 2022 de la nationaliste Giorgia Meloni en Italie au poste de présidente du Conseil. Après, il y a Viktor Orban en Hongrie qui a été élu, plus ou moins, bon, qui a été élu en tout cas. Le nationaliste roumain Georges Nicolae Simion, le Tunisien Kais Saied et l'Indien Narendra Modi incarnent bien, chacun dans leur pays, la crispation identitaire et raciste. Bon, après outre-Atlantique, l'inénarrable Donald Trump, entouré de techno-optimistes tels qu'Elon Musk, Mark Andreessen ou encore Peter Thiel, qui ressemble étrangement à ces modernistes réactionnaires. Il nous faut désormais réfléchir aux causes profondes de l'autoritarisme contemporain, parmi lesquelles l'atomisation des individus résultant de la recomposition des rapports sociaux, fruit du déploiement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, une numérisation tout azimut qui contribue par la même occasion à coup de clash et de fake news et à brouiller la réalité. Si l'histoire ne se répète jamais, pas même comme une farce, et si les formes de nomination, de domination, et les forces sociales ont changé depuis l'apparition de l'école des dictateurs dans les années 30, nous espérons que ce livre saura servir de boussole à ceux qui souhaitent penser notre époque et s'y orienter. Donc c'est là-dessus que c'est très très intéressant ce livre. Après, donc, en gros, c'est l'école des dictateurs, c'est des Américains qui vont en Europe à l'époque du fascisme, Hitler et Mussolini, pour emmener le fascisme aux États-Unis. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Ouais. Ouais, ça m'a vachement intéressé. Ah, je te jure. Chapitre 1, je crois bien, ouais, c'est ça. Je ne veux pas me parer des plumes. Si l'on y réfléchit, toute l'histoire des théories philosophiques est une collection de tautologies plus ou moins masquées. Mon seul mérite est la franchise. Alors, je dis, pick-up, je sais pas, pick-up. Ouais. Bon, c'est un des personnages du texte. Une tautologie masquée, je trouve ça marrant la philosophie, c'est pas totalement faux, c'est un point de vue assez intéressant aussi. Donc ensuite il y a Thomas le cynique qui dit « Je n'ai jamais lutté pour le pouvoir mais pour comprendre ». Moi je vais pas vous dire tout ce que j'ai pu souligner parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Qu'est-ce que la vérité, dit Monsieur W. Une foule de baigneurs n'est pas plus véridique qu'un bal masqué. Et là, Thomas Cynic, un peu plus loin, dit Mussolini et Hitler je le répète, ce n'est point que Mussolini et Hitler aient été intellectuellement plus à jour, mais ils étaient des hommes de guerre, des hommes nouveaux, des hommes d'instinct, engagés jusqu'au cou dans la nouvelle réalité sociale. Donc des dictateurs engagés dans la réalité sociale. Ai-je annoté. Et alors là, voilà, j'ai annoté Macron-Trump. Alors attends, on va voir ce que... Thomas le cynique. Il devint un grand stratège, Napoléon Bonaparte, et même un grand législateur, a écrit Metternich, grâce à son seul instinct. Pour revenir à notre temps, je vous conseille de relire l'admirable portrait de Staline que Souvarine a tracé. Vous serez stupéfait de la disproportion chez le successeur de Lénine entre l'intelligence et la volonté, entre le savoir et le savoir-faire. Oui, le père des peuples n'avait pas grand-chose de tout ça. Patient, méticuleux, sobre d'illusions, pas trop d'illusions, comme de paroles, et fort surtout de son mépris pour l'individu, c'est sûr, de son manque de principes et de scrupules, il est, dit Souvarine, un produit des circonstances, il doit sa fortune politique à ses antagonistes. Exactement, pour Staline. Et à la fin de... Mais peut-être faudrait-il en conclure que tous les hommes politiques les plus favorisés par la fortune ont été des opportunistes de génie. Et c'est là que j'ai annoté Macron et Trump. Parce qu'ils sont bourrés de thunes, tous les deux. Trump, surtout, c'est un riche... Macron, oui, il est riche, mais Trump aussi, quoi. Thank you. Voilà, il y avait un autre point qui m'avait assez plu au chapitre 3. Or, l'hégémonie d'une administration centralisée, hégémonie, donc qui se débrouille toute seule, est la condition préalable de toute dictature, bien plus, elle l'est déjà par elle-même, dictature. Simultanément, sans avoir pour autant établir un rapport de cause à effet avec le phénomène à l'instant mentionné. Donc là, ça sous-entend que une mécanique bien huilée qui se débrouille toute seule pour installer à côté un dictat, c'est bon. Et là, tout de suite en lisant ça, j'ai pensé vraiment à la famille, quoi. J'ai dit, bon, ça roule. Et là, tu t'imposes comme dictateur, quoi, au sein de ta famille, quoi, de la famille. Et alors là, voilà, là, c'est super intéressant. Opposé à l'invasion, en conséquence de quoi, et non, fût-ce à l'usage de la partie restreinte du public accessible aux formes supérieures de la culture, rien de valable à opposer à l'invasion de la civilisation de masse, qui n'a pas forcément accès à la culture, laquelle se manifeste par l'énorme diffusion précisément des masses médias qui ont pour résultat d'uniformiser de plus en plus la façon de sentir des individus et de les distraire de toute pensée sérieuse. Ça, c'est le contrôle, le conditionnement par la consommation. Ça, c'est le trois cons. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, sauf que ça amplifié, quoi. À l'époque, ça devait commencer, parce que déjà, s'ils le remarquaient en je ne sais plus quelle année, je vous ai dit, en 62... C'est énorme, quoi. Et là, aujourd'hui, encore plus, quoi. Semblablement, alors attends, l'effondrement politique, pour que, sur la base des conditions que je viens de rappeler, le collapsus, l'effondrement politique puisse effectivement se produire, il est indispensable que l'on soit en présence d'une situation où l'insécurité générale prenne la forme du désespoir et où l'avènement de la dictature finisse par être également appelé par beaucoup de ses adversaires. Ensuite, alors un peu plus loin, encore une fois, quoi qu'il en soit, permettez-moi de résumer ainsi ma pensée, dit Thomas le Cynique. La première condition pour qu'un régime totalitaire puisse prévaloir réside dans la paralysie de l'État démocratique. Autrement dit, dans l'irrémédiable discordance entre l'ancien système politique et la vie sociale radicalement modifiée. La seconde condition, c'est que cette paralysie de l'État profite au parti d'opposition et lui rallie les grandes masses comme au seul parti capable de créer un ordre nouveau. La troisième est que ledit parti d'opposition administre la preuve qu'il n'est pas préparé à cette tâche ardue et même contribue à accroître le désordre existant, décevant ainsi complètement toutes les espérances que l'on avait mises en lui. Donc c'est un peu ce que je vous disais en introduction. C'est, en fait, c'était un résumé très caricaturé, quoi, très au sens large, quoi. C'est vraiment là, apparemment, tu prends le RN en France 2025. Ouais, non, nous, on sait ce qu'on va faire. Non, on va changer les taxes. De 20%, on va passer à 5%. C'est pas possible, ça, déjà. J'ai cherché de mon côté, c'est pas possible. Les mecs qui veulent pas chercher et qui veulent y croire, bah, ils y croient, mais c'est pas possible. Donc, il dit, ouais. Donc, démocratiquement, il est écrit dans ce livre. C'est génial. C'était Hitler qui disait ça dans Mein Kampf. Pour arriver au pouvoir, la démocratie, c'est génial. Après, tu fais ce que tu veux. Oh, je sais pas si ça vaut le coup que je continue encore tout ce que c'est un petit peu, mais c'est incroyable ce livre. Hein. Ne croyez pas que l'expérience italienne. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ne croyez-vous pas que les expériences d'Italie et d'Allemagne ont appris quelque chose aux démocraties des autres pays? Appris quoi? Répond Thomas le cynique à Monsieur W. Tant que la situation est bonne, chacun est convaincu que certaines choses ne sont pas possibles dans son pays. Puis quand survient le cyclone, le mot d'ordre le plus suivi est « sauf qui peut ». La vérité n'est qu'une classe politique sur son déclin à toutes les infirmités de la vieillesse, y compris la surdité. T'entends plus, quoi? La vérité n'est qu'une classe politique sur son déclin à toutes les infirmités de la vieillesse, y compris la surdité. Quand c'est des vieux partis, t'entends plus rien. Tu campes sur tes positions, disons. Non seulement une classe politique à bout de souffle n'a plus de force, la capacité, la volonté, le courage de se servir des moyens à sa disposition pour gouverner et se défendre contre ses ennemis, mais en outre, elle n'a même plus l'intelligence indispensable pour dominer une situation sans cesse changeante et comprendre ce qui se passe. Tous facteurs qui ne peuvent que favoriser les initiatives totalitaires. L'école des dictateurs, dans sa totalité, répond vraiment... les éditions La Lenteur le sortent à un moment... au bon moment, je dirais, parce que faut se méfier, enfin, faut faire attention. Parce qu'en même temps, j'ai lu Sébastien Lecornu, donc le Premier ministre, là, le jour où je vous parle, ancien ministre des Armées, il avait écrit Vers la guerre en 2024, et lui, il dit bon, faut pas non plus se. Tu vois, s'il y a la guerre en Ukraine. Faut pas se dire « Ah ouais, mais il y a la guerre en Ukraine, ça peut venir jusqu'ici. » Non, c'est pas possible. Je veux dire, je suis d'accord avec lui. Non, mais je partage complètement ses positions. Enfin, c'est sûr que la France, qu'est-ce qu'on a... Enfin, on est, comme il le dit, on est une force nucléaire. On fait partie de l'OTAN des cinq membres permanents. Déjà, ça, il y a une sécurité que beaucoup d'autres pays n'ont pas. Il compare par rapport à l'Italie, Allemagne. Et puis après, il dit, on ne peut pas trop se comparer à ça, mais à l'Angleterre, qui a l'arme nucléaire aussi. C'est là qu'il dit la différence avec tous ces pays, c'est que l'armée française, elle est 100%, elle n'a pas besoin des autres. Alors que tous les autres ont besoin des États-Unis, par exemple. Tu fais partie de l'OTAN, ah ouais, mais donc tu dépends des États-Unis. Alors qu'en France, non. On a cet avantage. Et ça, on peut remercier, en tout cas, ça, c'est dû au travail de Charles de Gaulle. Voilà, c'est ce qu'il est dit dans Sébastien Lecornu. Et s'il nous arrivait la même chose qu'à l'Ukraine? Bon, c'est hasardeux et approximatif, dit-il. Non, nous ne sommes pas dans la même situation que l'Ukraine, et nous ne le serons jamais. Le fait d'être une puissance dotée de l'arme nucléaire ne peut, en toute logique, nous mettre dans la même posture qu'un pays qui en est dépourvu. Car le fait d'être membre de l'OTAN ou ne pas être membre ne crée pas des garanties de sécurité similaires. Donc, c'est-à-dire que, t'as l'arme nucléaire, c'est quand même un truc, quoi. Bien entendu, le monde a changé, mais c'est la méthode faite de modernité et d'anticonformisme. La défense est la première raison d'être de l'État. Il y serait manqué sans se détruire lui-même, rappelait de Gaulle. Car il est une autre chose qu'il faut noter, qui est dès le début. Jamais les crises ne se sont autant accélérées. Terrorisme, prolifération nucléaire, retour de compétition débridée entre les États avec la réémergence d'une logique de bloc, guerre aux portes de l'Europe, routes maritimes contestées, militarisation de l'espace et des fonds marins, attaques cyber et informationnelles, etc. etc. Spreading all across the land.
Don't just sit there on your ass and let that funky chain dance. Brothers, sisters, shoot your best. We don't need this fascist groove thing.
Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing.
History will repeat itself. Crisis point, we're near the hour. Counter force will do no good. Pop your eyes, I feel your power. Hitler proves that funky stuff. It's not for you and me, girl.
No, 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 no.
Europe's an unhappy land. They have their fascist groove thing.
Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing.
Democrats are out of power. Across that blue wide ocean, Reagan's president-elect, fascist all in motion. Generals tell him what to do. Stop your good time dancing. Bring your guns on me and you. Fascist all advancing. Sisters, brothers, lend a hand. Increase our population. Grab that new thing by the throat and throw it in the ocean. The real tonight to move my soul. Let's cruise out on the dance floor. Come out your hands and dance your dance. Shake that fascist groove thing.
Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing.
Fascist Groove Thang du groupe Even 17 de 1981. Si nous revenons à ce fascisme, qui est un peu le thème de l'émission, dans l'humanité est bien présent, surtout dans le point de vue social, tout autant que dans des principes ou convictions. Selon certains, et certains points de vue, se fixant à imposer à autrui ses volontés et obligations, il est inséparable des sociétés, en quelque sorte, le fascisme. Des sociétés, dis-je. Certes, à des échelles sensorielles différentes. Alors, je reviens à mon exemple de la famille, qui, je trouve, est pas si mal que ça, comme, pour se rendre compte. Donc au sein d'une famille, par exemple, l'éducation se profile à la frontière du fascisme, d'un fascisme. Attention, fascisme, c'est pas nazisme. Fascisme, ça vient de l'Italie, Mussolini. Le nazisme, c'est allemand, c'est Hitler. Sur un mode occidental comme, donc par rapport à l'éducation, ça peut être sur un mode occidental comme les États-Unis, qui nous aident pour mieux nous contrôler. Donc tu vois, avec tes enfants, t'es cool, mais en fait, tu le sers derrière. Enfin, tu contrôles, t'en fais un peu ce que t'en veux. Ou encore totalitaire, comme certains pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, du monde entier, dirons-nous. Plus strict, liberticide, d'une certaine mesure, et dans une dimension unique et porteuse de valeurs, bien sûr, mais restreinte. Mais par rapport à quoi ? Par rapport aux valeurs occidentales, par rapport à la liberté même. Tu vois ? Ces deux directions, soit totalitaire et occidentale, en vue d'une banalisation de l'être pour asseoir et sceller un pouvoir depuis le haut de l'échelle, quoi. Depuis le possédant, depuis le... Donc, c'est un fascisme qui malgré tout, je trouve, qui s'avère être déguisé pour la mode occidentale. Le mode occidental. Mine de rien, tu le dis pas vraiment, mais en quelque sorte, c'est la démocratie. Par exemple, en France, on voit, ils veulent pas faire de. Je l'ai dit, je sais plus, je l'ai dit récemment. Ils veulent pas trop cohabiter, et puis. Ils pensent d'abord à faire passer leurs idées. Avant, normalement, c'est leur pays, quoi. Enfin, un maximum. Même si leur idée est pour le pays, c'est leur idée qui doit passer. Avant, toute celle des autres. Après, je pense que c'est bien plus compliqué que ça. N'étant pas politicien, ni politique. D'ailleurs, dans un livre « Machiavel en démocratie » par Édouard Balladur, donc, qui avait été Premier ministre, je crois, sous Chirac, il me semble, eh bien, je lis « Les disciplinés, eux, obéissent à l'autorité parce qu'elle est l'autorité, quoi qu'elle exige. Selon les circonstances, ils y mettent une ardeur plus ou moins grande. Ils ont aussi le souci de leurs propres intérêts. Ainsi des fonctionnaires sous le régime de Vichy. » Donc, ça, c'est un peu totalitarisme, tu vois. Enfin, c'est la discipliner. Et après, si on revient à ce que je disais sur Macron et Trump, en exemple, les opportunistes sont ralliés par principe à celui qui gagne. Aussi longtemps qu'ils gagnent. Ils sont sans état d'âme, parce que sans idée personnelle, prêts à servir tous les puissants à tour de rôle. Alors, concernant Macron, je ne sais pas trop, mais Trump, oui, je crois que c'est indéniable. Je veux pas trop. Alors, la banalisation d'un pouvoir, la normalisation d'un être, qu'il soit conforme à un esprit assimilé à un stéréotype de l'état d'être. Eh bien, selon mes observations, ce que les dictateurs ordonnent, ce que les pays occidentaux démocratiques souhaitent, et ce que le leader de la famille, selon ses convictions, car tout le monde est différent, là, je me dis, je ne sais pas si ça va être cool d'en parler, mais dans de nombreux cas, quand même, les enfants d'un couple... Par exemple, il ne faut surtout pas le prendre pour vous, mais je sais qu'il y en a qui n'écoutent pas la radio de JTFM, en l'occurrence. Mais eux, ils se plaisent à exécuter ça, afin que un extraterrestre, eh bien, que tout soit, que la famille soit conforme à l'image de la famille dite parfaite. Thank you. The Red Door par Stan Getz, Zoo Sims and Co. Et des copains de l'époque. Donc The Red Door, je l'ai mis, la porte rouge, un peu coco, quoi. Qui est aussi un régime totalitaire, qui a longtemps été un régime totalitaire. Oui, encore. Bref. Donc dans la 5ème République, en France, le coup d'État permanent est de bien entendu le coup d'État qui ne peut pas se produire. T'as le Parlement, t'as l'Assemblée, t'as le Président. Déjà, c'est bicéphale. Le Président ne peut pas choisir. À côté, t'as le Parlement et l'Assemblée qui... Le Parlement, tout court, déjà. Qui peut se mettre contre lui. Donc, il n'est pas libre non plus à 100%, le mec. Même, bon, c'est vrai, il a l'article 16, il peut, si vraiment c'est le gros bazar, il prend les rênes et il fait ce qu'il veut. Mais bon, à ce moment-là, il reste quand même l'État, le président, le décideur en lieu et en place, mais de quoi ? De l'absence de prise de choix possible pleinement. Il y aura toujours quelque chose, même s'il a les pouvoirs, totaux, je dirais, il sera toujours bloqué par quelque chose. Qui pourtant donc se querelle et s'annule dans un monde imaginaire avec le peuple en toile de fond. Ça c'est en gros c'est la politique quoi. Ça reste très flou. Même s'il prend les pleins pouvoirs, il pourra jamais, ce sera jamais possible quoi en fait. Non. Enfin, si, ce sera possible dans une démocratie quand même. S'il décide de prendre les pleins pouvoirs et de... C'est le chef des armées aussi. Hein. Donc... Mais bon, je pense... Là, à l'époque actuelle, je pense que c'est pas vraiment possible. Mais bon, sûrement que peut-être que... Les soldats, on sait ce que c'est. Hein, ça obéit aux ordres. Le coup d'État permanent, c'est de François Mitterrand, qu'il a écrit en 1964, bien avant son élection présidentielle en 1981. Et en fait, dans le coup d'État permanent, c'est un petit peu contre De Gaulle, complètement même, contre De Gaulle qui était lui à droite et Mitt à gauche, contre la Ve République, et qui pourtant, la Ve République, il n'a pas changé la constitution de Mitterrand quand il s'est fait élire en 81. Non, il l'a utilisé. Il l'a utilisé pour faire ce que lui pensait. Et la démocratie est donc parfaite, mais surtout quand on est au pouvoir. Avant, tu peux la critiquer, parce qu'il critique la Ve République, il critique De Gaulle, il critique tout, quand je serai au pouvoir, ça changera. Et en fait, non. Quand tu es au pouvoir, ça ne change pas. Tu restes... Tu fais peut-être des choses un peu différentes. C'est le socialisme. En France, c'était la première fois. Je pourrais même dire la seule, malgré François Hollande. Mais... voilà. Donc, en fait, la démocratie en France est parfaite, surtout quand on a les pouvoirs. Voilà, maintenant on va passer à l'interview, comme je vous disais plus tôt, des éditions La Lenteur qui ont justement réédité L'école des dictateurs de Ignazio Silone. Et donc j'ai à l'autre bout du fil Pablo Rodilla et Nicolas Eguezier. C'est à toi, Pablo. Je t'en prie, si tu veux annoncer. Ce que tu penses de l'école des dictateurs. Pourquoi tu as réédité cet ouvrage?
Alors, merci Elton de nous avoir invités, Nicolas et moi. Alors, pour préciser, je ne suis pas le seul à l'avoir édité, puisque je fais partie des éditions La Lenteur avec notamment... Nicolas Eguezier qui est ici à mes côtés. Donc on a réédité ce texte hein, qui a paru en français dans les années 60 chez Gallimard. Et on le réédite cette année. Il a paru au mois de octobre. Il est paru le 8 octobre dernier.
Oui.
C'est un livre écrit, comme tu disais, par Ignazio Silone, qui est une plume très importante des lettres italiennes du XXe siècle. C'est un auteur qu'on connaît mal ou pas du tout en France, malheureusement.
Oui, c'est sûr.
Comment, pardon ?
Oui, je dis, c'est sûr, je ne le connaissais pas. Moi, je l'ai pris, le livre, je l'ai commandé à Quilombo, la librairie parisienne.
D'accord.
Ouais.
Et donc, Ignazio Silone, donc, qui est un auteur important en Italie, il va le devenir à partir des années 80, 90, surtout 90, il a écrit ce livre alors qu'il se trouve en exil en Suisse. Lui est l'un des fondateurs du Parti communiste italien, mais quelques années après l'avoir lui-même fondé. Donc, le Parti communiste italien voit le jour en 21, et Silone commence à s'en séparer en 1927, dans ces années-là, donc 6-7 ans après. Et en exil en Suisse, en raison de ses activités antifascistes. Et il va. C'est une époque difficile pour lui, l'exil. Bon, déjà en raison de l'expérience de l'exil elle-même, qui est très difficile pour n'importe qui, mais en plus, en raison de sa séparation avec le parti, des torrents de. Je ne peux plus m'exprimer ainsi, des torrents de merde. Que ses anciens camarades de parti lui lancent dessus, et également en raison de l'emprisonnement de son frère Romolo, qui est quelqu'un dont il se sent très très proche, et qui est en prison et qui mourra quelques années après dans cette prison. Et bien, donc comme je disais, c'est une époque difficile pour lui, et il va décider de commencer à écrire. L'écriture va être une thérapie pour lui. Donc lui ne songeait pas à devenir romancier, mais il va le devenir un peu par la force des choses.
Ouais. Et il passera des messages dans tous ses ouvrages comme ça, où il y aura ses convictions politiques, du moins
il est connu pour être romancier avant tout.
Ouais.
Si on l'a publié, évidemment, c'est pas seulement pour la qualité d'écriture, mais aussi parce que il y a un contenu politique très net.
Ouais.
Avant de publier L'école des dictateurs, on a publié un livre qui s'appelle Sortie de secours.
D'accord.
Il mélange des aspects biographiques et notamment de description de sa société d'origine, qui est la société paysanne du centre de l'Italie, centre-sud des Abruzzes. Et ce roman montre comment il tire les racines de son socialisme, la morale et des pratiques de cette société paysanne. Voilà. Comment l'éveil à l'injustice et à la politique se fait au contact de cette société paysanne dont il fait partie.
Et j'ai trouvé ça très 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 bon, en fait, je trouve, de sortir ce livre aujourd'hui, parce que dans mes souvenirs, c'est un Américain qui vient voir les fascismes européens pour ramener ça en Amérique.
Tout à fait, ce sont deux personnages américains, Mister W et le professeur Pickup.
Oui.
Mister W étant le dictateur en puissance, l'apprenti dictateur, et le professeur Pickup, qui est sa main droite, c'est le cas de le dire, et qui est son conseiller politique, qui viennent en Europe se nourrir du pire qu'ont pu donner les totalitarismes de droite en Europe. Ils arrivent en Suisse, ils débarquent en Suisse, et là ils vont rencontrer Thomas le Cynique, qui est l'alter ego d'Ignazio Silone, et qui est un antifasciste qui est réfugié en Suisse.
Oui, c'est ça.
Alors c'est un homme qui aime beaucoup ce personnage-là, qui aime beaucoup débattre, et qui aime surtout débattre avec ceux avec lesquels il n'est pas d'accord. C'est toute la richesse du livre,
oui.
de voir cette dialectique. Donc c'est le personnage-là qui veulent en effet ramener chez eux le secret du fascisme et cet antifasciste qui va justement leur livrer les secrets, la formule magique du fascisme.
C'est ça, exactement. C'est d'ailleurs, il n'y a pas meilleure façon de progresser que d'affronter l'adversaire, quoi.
Oui.
C'est ça, c'est bien. C'est très bien, ça m'avait plu aussi, ça. Et donc ensuite, moi, il y avait quelque chose qui m'avait... j'avais pensé à ça, du moins. Alors, je vais vous le lire. Alors, si nous revenons à ce fascisme, bien présent dans l'humanité sociale, tout autant que dans des principes ou convictions, se fixant à imposer à autrui ses volontés et obligations, il est inséparable des sociétés, certes à des échelles sensorielles différentes. Au sein d'une famille, par exemple, l'éducation se profile à la frontière d'un fascisme. Sur un mode occidental comme les États-Unis, par exemple, qui nous aident pour mieux nous contrôler. Voilà, ça, c'est ce que j'avais écrit. Je voulais vous en parler à vous, qui êtes des éditeurs, les éditions La Lenteur.
Cette citation, si j'ai bien compris, c'est que... c'est la démarche de Stilhon en général, dans ce livre, c'est de montrer que le fascisme, en tant que phénomène politique, est à l'intersection de deux dimensions. La première, c'est la volonté politique, c'est l'événement. Donc, dans le livre, il va raconter comment Mussolini a pris le pouvoir, le rôle des différents partis, les erreurs de la gauche, etc. Donc, c'est du côté de la volonté, d'être fasciste, d'instaurer un régime fasciste. Et de l'autre côté, il va parler d'un contexte. Hein, l'idée, c'est que la société de masse, issue de la première guerre mondiale, fournit le matériel à la fois idéologique, à la fois humain, qui est disposé à accepter ce nouveau type de régime. Voilà, c'est ça un peu la clé de l'ouvrage. C'est aussi ça qui nous a fait l'éditer. Ça veut dire arriver à tenir ensemble l'idée que, en effet, il y a des conditions peut-être aujourd'hui qui sont favorables à l'émergence de régimes autoritaires. Mais il y a aussi des marges de manœuvre dans le sens, ça reste de la politique et donc on peut chercher à l'éviter. Mais si on fait que de la politique, c'est-à-dire qu'on se base que sur la volonté des êtres humains actuels et qu'on ne réfléchit pas aux conditions sociales et économiques d'émergence des régimes autoritaires, évidemment, eh ben on est coincé.
Ouais. Voilà.
Et c'est ça l'intérêt du livre aujourd'hui.
Ouais. Exactement, oui, c'est ça. Écoutez, moi, c'est parfait comme vous présentez le livre. J'avais pas davantage de réflexion. Enfin, si, disons que j'en ai plein de réflexions comme celle que je viens de vous lire là, mais je sais pas à quoi ça va mener, quoi. Si ça vous intéresse, je peux vous en lire une autre partie, mais bon.
Là, ça fait un quart d'heure qu'on discute.
Ouais.
On peut prolonger encore 5 minutes la discussion, un petit peu plus. Mais surtout, moi, ce que ça m'intéresse beaucoup de savoir à vous en tant qu'éditeur.
Oui.
Une fois qu'on choisit entre le moment où on choisit d'éditer un texte et le moment où il sort, il se passe souvent un an, deux ans, trois ans.
Oui.
Et, on l'a moins frais, donc on est toujours quand même friand de connaître les impressions des lecteurs.
Le fascisme, c'est extrême, bien sûr, mais je me dis des fois, même au sein d'une famille, Le parent va forcément, à moins qu'il fléchisse, qu'il fasse des enfants, des enfants rois. Il y a l'éducation qui est là. Donc après, là, ça n'a pas forcément à voir avec l'école des dictateurs. Mais j'essaie de faire des parallèles avec d'autres versants de la vie.
Si vous me permettez, cher Almouchoise. Ah oui, professeur Schmilbli, je vous en prie. Oui, eh bien, comme je vous entends, vous ainsi que les éditions La Lenteur. L'éducation, oui. Je vois le fascisme que vous entendez, cher Helmut Schwarz, ainsi que le fascisme entendu, même historique, consacré, devrais-je dire, par, que La Lenteur décrit, et qui est connu de par le monde. L'éducation, cher Helmut, par la télévision, est le produit du fascisme démocratique occidental. Oui. Non, je... Vous voyez, bien sûr, je vois complètement ce que vous dites, parce que je vois des façons de faire d'enfants qui sont en rien, qui sont pareil, le produit, pour reprendre vos termes, cher professeur, de la télé. Parce qu'à la télé, c'est toujours la même façon, en fait, qu'ils ont de jouer, les comédiens. Certains comédiens, je ne parle pas des hauts de l'affiche, bien sûr, qui en mettent une façon d'être, qui est propre à eux-mêmes, mais des autres comédiens de bas étage, on pourrait dire, qui, eux, ne sont pas comédiens, mais doivent produire des choses que tout le monde puisse reconnaître. Un jeu d'acteur. Oui, exactement, cher Helmut. Vous avez compris. Donc vous voyez ce que je... Oui, eh bien, je vous remercie de ce parallèle. Merci beaucoup. Oui, c'est d'ailleurs le fascisme que je déplore et que je dis dans beaucoup de mes chroniques, oui. C'est... Exact. Merci, professeur. Oui, je vous en prie, cher Helmut. Mais c'est pour vous dire que l'école des dictateurs, ça fait poser beaucoup de questions, et pas forcément des questions sur Ignazio Silone. Vous voyez ce que vous faites, les éditions que vous proposez, ça emmène un choix de questions, de questionnements envers tout, quoi. C'est ça que vous attendiez pas à cette réponse.
Importante, parce que ce qui définit le totalitarisme, c'est la disparition de la vie privée et l'embrigadement de la jeunesse dans des organisations de jeunesse. Il y avait dans le fascisme, il y avait la question des jeunesses fascistes, il y avait le Malil et le petit garçon fasciste. Hein, donc évidemment, ça vient toucher la sphère privée, la disparition de la sphère privée. On peut faire un parallèle évidemment avec l'époque actuelle, avec l'intégration de la sphère privée grâce aux moyens des smartphones et à la connexion 24 heures sur 24 des individus. Donc ça, c'est plutôt la prochaine émission que vous ferez sur le fascisme.
Ouais, ouais.
Évidemment, nous, on a publié les deux en même temps. Donc, le livre de Silone, c'est plutôt faire œuvre de travail historique, d'éducation historique, parce qu'évidemment, quand Silone révèle le secret à Monsieur W. Évidemment, il délivre le secret au lecteur.
Oui, bien sûr.
Et une invitation à réfléchir pour le lecteur aux racines et aux causes du fascisme. Ça, c'est sûr que pour nous, c'est très important aujourd'hui. Parce qu'on entend beaucoup parler d'antifascisme, ce qui est très bien. Il y a une sensibilité antifasciste. Mais ce qui serait mieux, c'est qu'il y a aussi des études historiques et des études théoriques sur quelle est la nature du fascisme aujourd'hui et qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui un régime fasciste.
Oui, exactement. Mais là, c'est pareil, encore au sens plus large, les définitions des mots aujourd'hui sont... je veux dire, chacun a sa définition des mots.
Malheureusement, le terme fasciste a été très galvaudé aujourd'hui.
Ah bah oui, complètement. Comme un défaut, oui, c'est ça.
J'ai l'impression qu'on est tous le fasciste de quelqu'un. Donc la raison pour laquelle on a voulu ressortir à la lumière ce texte-là, c'est pour remettre les choses à plat et pour donner à voir ce qu'a été le fascisme réellement existant et quelles sont ses racines. Et c'est important de dire aussi à l'attention des gens qui écouteront cette émission que c'est un texte de 38, mais qu'on a voulu lui donner une patine actuelle en y ajoutant une préface qui est contextuelle, enfin qui met en contexte.
Très bonne préface. Oui.
Qui remet en contexte le texte et également tout un appareil de notes très conséquent qui a été élaboré notamment par Charles Jacquier, qui est un sociologue qui connaît très très bien le mouvement ouvrier. Et les forces d'opposition au stalinisme, notamment dans les années 20, 30, 40, 50, 60. Donc voilà, on espère que ce texte, malgré le temps qui est passé, saura demeurer actuel aux yeux d'un lectorat actuel, jeune.
Ouais, voilà. Ouais. Mais après, c'est ce que je vous disais, les parallèles que vous faites par rapport à l'actualité, là, dès la préface. Mais c'est fantastique, ouais, c'est génial. Et c'est ce que je vous disais, le fait de sortir ça maintenant, et même pendant la lecture, bon, je ne sais plus, je l'ai noté, mais j'ai noté macronisme. Je ne sais plus pourquoi c'était.
Ah oui, bah c'est sûr que vraiment ce livre sort à point nommé.
Oui, exact. Donc ce texte, il est de 1938.
Tout à fait. Alors il est...
Parce que... c'était ma question précédemment là dans mon émission. Je savais pas parce que c'était entre parenthèses je connaissais pas trop ces années. Vous n'êtes pas les seuls à ne pas utiliser Internet. Alors j'étais un petit peu. Allez-y, je vous écoute. Donc c'est un texte de 1938.
Un texte de 38 qui a pour particularité d'avoir été édité en Suisse par un éditeur qui s'appelait Émile Oprecht, à qui on doit beaucoup. Parce qu'il a fondé une maison d'édition qui existe toujours, qui s'appelle Europe à Verlag, les européennes, et qui en fait s'est fait connaître dans les années 30 pour éditer des textes qui étaient interdits en Italie et en Allemagne. Parce que Silone voulait le publier en Allemagne, et en fait apparemment c'est un romancier autrichien qui s'appelait Jacob Wassermann, qui était très enthousiaste et qui l'a proposé à un éditeur berlinois, mais comme on était en plein nazisme,
nice. Eh bien, c'est pas quoi.
Le moment, enfin en plein nazisme, non, c'était les débuts.
Oui.
Les débuts, on était en 33. Eh bien, ce n'était peut-être pas le moment de.
Pas le meilleur, oui.
Et donc, c'est Oprecht qui a pris le relais et qui a décidé de publier en Suisse, en allemand.
Ah ouais, bien vu. Ah ça, c'est chouette, ouais. Heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui existent.
Et des gens comme la lenteur qui existent aussi.
Et c'est exact, ouais. Je pensais à ça, oui.
Qui nous jette des fleurs à nous-mêmes. Ouais. Enfin, un peu de plaisanterie, non, j'espère que voilà, ce livre-là voilà, sera intéressé à un lectorat jeune.
Je vais vous jeter des fleurs aussi, mais enfin, il est très facile, très accessible, quoi. Il est... C'est un super bouquin.
Ce qu'il faut dire peut-être aux auditeurs, c'est qu'en fait, ce qui a été dit un peu, mais j'insiste, en fait, il a une forme un peu déroutante. En fait, il est sous forme de dialogue.
Ah oui, bah oui, c'est par contre, oui.
C'est uniquement des dialogues. Alors au début, c'est un peu déroutant, mais on peut dire que Silone, il utilise la forme du dialogue de manière quand même très très habile. Parce que ça va donner un aspect synthétique.
Ouais.
Donc ça permet de... On voit qu'il a quand même énormément réfléchi à la question. En fait, il a écrit avant... Il avait écrit avant un ouvrage en italien qui a été sur le fascisme dans les années 30, un peu avant. Mmh. Et en fait, c'est un ouvrage qui a été traduit et publié en allemand et dont on a perdu la version originale italienne.
Ouais.
Et en fait, bon, j'ai pas lu l'ouvrage, mais à la lecture du sommaire et à la lecture de certains résumés, en fait, il a fait une sorte d'ouvrage très sérieux sur le fascisme et qui était encore très emprunt d'une formation d'économiste marxiste.
D'accord.
de faire un gros ouvrage sur le fascisme, théorique, voilà. Et il y a aussi des écrits très fouillés de Cilone sur qui avait voté fasciste ou pas dans les années 20, les dynamiques, etc. etc. Donc c'est quelqu'un qui connaît beaucoup, qui est très documenté évidemment, parce qu'il a vécu en étant dans la clandestinité, en étant opposant au fascisme en Italie. Hein. Mais là on voit qu'il s'est détourné de cette forme scientifique, documentée, etc. pour donner quelque chose de propagande.
Ouais.
Voilà, de propagande au bon sens du terme, ça veut dire qu'il y a une urgence, il faut faire connaître, et faire connaître de manière simple et didactique. Et, voilà. Et ça n'exclut pas le sérieux, ça veut dire que je pense que derrière ce dialogue qui a l'air un peu léger, il y a quand même des thèmes théoriques qui sont vraiment pensés, qui sont assez profonds.
Oui, qui emmènent des questionnements, oui, bien sûr, ah, mais c'est ça qui est très fort, hein. C'est ça qui est renversant. Et ouais, c'était vraiment... Ouais, j'avais passé un bon moment à lire ce livre, c'est vrai. Et...
On se sent, quand on l'a lu, on se sent un peu plus intelligent.
Oui, voilà, c'est ça. Concerné, oui, c'est ça, c'est chouette.
On se sent moins, un peu moins con. C'est plutôt proche de la réalité. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec son livre de 33 qui s'appelle Fontamara.
Ah oui ?
Tout petit livre, très percutant, et qui est un livre qui est lié à... qui a écrit au moment de sa rupture avec le Parti communiste aussi. Il rompt avec le Parti communiste, il rompt avec la politique, il se met à écrire un roman, donc il est libéré de ce poids-là un peu, de la dialectique marxiste, du parti, etc. Et il écrit un livre qui va devenir peut-être le livre de littérature antifasciste dans ces années le plus lu. Donc, côté comme ça très brillant aussi de Cilone.
C'est le premier livre qu'il écrit dans lequel il met en scène un village qui décide de s'opposer, de résister aux forces réactionnaires fascistes nouvellement arrivées au pouvoir et qui se sont alliés à l'Église. En ce qui est particulier chez Cilone, c'est que c'est un homme croyant, il l'a été toute sa vie. Mais c'est un homme aussi anticlérical, c'est-à-dire qu'il est très critique vis-à-vis de l'Église en tant qu'instance de pouvoir humain.
C'est ça. Donc c'est un croyant qui croit, mais pas dans les religions, quoi.
Alors c'est un croyant qui croit à la parole de l'Évangile, à la parole biblique, qui croit
D'accord.
Au message de Jésus, au message chrétien,
oui.
Mais qui est tout à fait opposé aux affaires des hommes, enfin, ou à la religion entendue comme organisation humaine.
Oui, c'est ça, d'accord.
Rituel, en fait.
Oui, je comprends.
Il a cette expression, il dit je suis un chrétien sans église et un socialiste sans parti.
C'est pas mal. C'est bien, c'est... Ouais, c'est chouette. Parce que, ouais, si tu reviens à Jésus, en fait, là, il remet tout en question, quoi. Et c'était un des messages, pour moi, je pense, le message principal de Jesus, c'était posez-vous des questions, les gars, quoi.
Oui, ben, la remise en question des pouvoirs, de certains pouvoirs, ou à tout le moins du pouvoir spirituel détenu par les pharisiens et du pouvoir...
Romain.
Enfin, les Romains, tout à fait, oui. Donc, c'était un homme voilà, qui était emprunt de croyances religieuses, si on peut dire, mais qui par ailleurs était très très critique vis-à-vis de l'institution ecclésiastique.
C'est ça, je comprends bien. Ouais.
Enfin,
oui, j'allais dire, c'est pareil, des mecs comme ça, il en faudrait plus, quoi.
C'est sûr, on parle souvent, on dit de Cilone que c'est le Orwell italien.
Oui, j'ai lu ça, oui.
Avec, voilà, bon, c'est quelqu'un qui a eu le courage d'une position quand même, qui est restée très souvent, presque toute sa vie minoritaire. Mais je pense que ce qui vraiment caractérise son socialisme, c'est l'aspect paysan. Plus que religieux. C'est pas spirituel, on peut dire.
C'est pas un Charles Péguy, hein.
Oui.
Non, mais Parce qu'on pourrait se dire, ah, c'est une sorte de socialisme, pas du tout.
Quand on lit Sortie de secours, c'est vraiment empreint de plein de contes moraux, en fait. Mm. C'est la question morale, en fait. C'est un socialisme moral, ouais. De la même manière qu'Orwell. Hein.
Ouais.
Orwell, la question morale est très importante. C'est la définition du bien et du mal. Qu'est-ce que je fais? Voilà. La question voilà, des riches et des pauvres. C'est vrai qu'il va s'inspirer, un peu de l'Évangile. Il va critiquer le stalinisme comme un socialiste qui a perdu toute morale.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mais oui, c'est vrai, il faut bien préciser, ce n'est pas un socialisme mystique. Hein, ça,
non, c'est d'accord, c'est du vécu, ouais, je comprends.
De Silo, je pense qu'il son fort intérieur était habité d'une religiosité certaine, mais qui ne transparaît pas dans son œuvre, qui, elle, comme dit Nicolas, est marquée par la question de ce que pourrait appeler Orwell la décence ordinaire, quoi.
Mmh.
Des gens ordinaires. Voilà, il y a des choses qui ne se font pas, quoi. Voilà, c'est ça.
Alors pourquoi cette chronique sur le fascisme ? Premièrement, parce que si notre volonté de s'affirmer par la flexion de l'autre, à nos vœux, nos souhaits, si on a besoin d'écraser l'autre, en fait, par ce qu'on dit, enfin, pas écraser entre guillemets, de changer, convertir l'autre. Un petit peu, les pensées du moins. Si ça n'existait pas, eh bien le monde serait assez plat, bourré de compréhension envers l'autre, d'empathie envers l'autre, envers les atmosphères, envers les ambiances, et la perfection serait partout. Sans, là, ce qu'on oublie, c'est quand il y a la perfection partout, sans progression possible. Difficilement. Eh bien, j'ai écrit une lettre aux éditions La Lenteur, avec qui je suis entré en contact. Je vais vous lire une partie de la lettre. « J'ai bien reçu vos écrits technofascisme, les élus le soir même. La liberté dans le coma, qui était un ouvrage qu'ils ont édité, ça fait depuis 2012, je l'avais acheté à sa sortie. La liberté dans le coma, lui en 2012, m'a peut-être inconsciemment dirigé sur une voie identique à la vôtre. Parce qu'il lutte contre, justement, avec le groupe Marcuse, il lutte contre tout le principe des barges russes, mais d'une façon différente. Il lutte contre les réseaux sociaux. Si je caricature, c'est ça, quoi. Contre l'avènement des réseaux sociaux. Alors, dans ce fascicule, vous parlez de Mars, de désintoxication, de réseaux sociaux batifolant dans une épaisseur du réel et de la solution. Mais une solution qui, pour les éditions de l'inventeur et le groupe Marcuse en l'occurrence, je dis bien, ça a l'air plus politique, ce qui est totalement concevable. Mais d'un autre point de vue, il n'y a pas de remède, quoi. Comme ils le disent même, on n'a pas de remède miracle. Non, c'est juste que là, il faut se poser des questions. C'est ce que je dis depuis très longtemps. Mais il faut trouver la force, en fait, de se poser des questions. Donc de la solution qui est en nous est préférable d'ignorer. Parce qu'en fait, la solution, si on veut y arriver, c'est nous. Je suis certain que si tout le monde se posait des questions, on aurait un monde pas parfait, mais on aurait un monde à nous. Donc pas parfait, par le fait. Là, il n'est pas à nous, le monde. Celle que cette solution que des auteurs ont pu traverser, ainsi que des croyances. Quand j'ai écrit ça, je pensais à Lovecraft. Lovecraft, c'est des croyances, le soufisme. Mais ça aussi, chez des êtres qui n'ont rien à voir avec ça, et même dans des moments totalement différents. Et Ensuite, au moment où j'arrête la lettre, je vais l'arrêter ici, je ne vais pas vous dire la suite, mais de la perfection, d'une perfection, naît le chaos. Ça je l'ai pris dans le livre justement de Ignazio Silone, L'école des dictatures, c'est lui qui le suggère. Et en fait, si tu ramènes ça au plan d'aujourd'hui, au plan actuel, les identifications, alors je donne un exemple qui est un bon exemple à mon avis, les identifications qui existent, TDA, TDAH, sur des enfants, troubles de l'attention ou troubles de l'attention hyperactif, des hyperactifs, etc. Tout ça, c'est le résultat. Mon fils, j'ai un fils qui est concerné, hein. Il prend de la Ritaline. C'est un médicament pour l'aider à se concentrer. Bon, j'étais pas pour, je suis pas, je sais pas, enfin, vous allez écouter ce que j'ai à dire. Bon, les identifications, TDAH, etc., sont le résultat du syndrome de la perfection. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de la perfection ? Eh bien, c'est le désir d'appartenance à la meute normale. Le chamboulement du caractère dès l'enfance, qui donnait un accès au côté invisible, donc le chamboulement, je parle des médicaments, qui viennent changer tout ça, au côté invisible, n'est pas accepté dans la réalité. En fait, dès qu'on a un moment d'égarement, dès qu'on, il y a des artistes, des personnes en tout cas, qui ont vu comment pourrait fonctionner le monde autrement, mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais été accepté. On veut pas que ces gens-là soient dans leur monde. On veut qu'ils appartiennent au monde. Et si, parce qu'à partir du moment où ils sont dans leur monde, ils arrivent à drainer d'autres personnes dans leur propre monde. Et donc là, c'est pas accepté par la réalité en vue d'un monde parfait. Les enfants n'arrivent pas à suivre la réalité. Je vous dis, j'ai mon enfant, là, mon dernier, il est comme ça. Il n'arrivait pas à suivre. Donc, pour pas qu'il redouble, on lui donne de la Ritaline. Ouais. Et ça marche. Il passe. Il est passé en CE2. Donc, à suivre la réalité. Donc là, les enfants sont changés pour entrer dans le moule conformé de la norme. Vous voyez, si on c'est très existentiel ce que je vous dis. Si l'enfant, il naît comme ça, c'est qu'il a à faire ça. Il a à naître comme ça. Il va lui arriver quelque chose. Mais après, si c'est pris à temps, c'est sûr que bon, là notre enfant, j'ai eu des longues conversations avec ma compagne, il aura une vie, on ne sait pas, mais on lui donne toutes les cartes en main pour qu'il ait une vie plus agréable, plus confortable. Mais bon, chacun doit avoir son avis là-dessus, mais en vue d'un monde parfait, là, c'est ce qu'il faut faire, quoi, pour que tout le monde soit dans le moule. Ton enfant doit être dans le moule. Toi-même, tu dois être dans le moule. Heureusement que c'est pas le côté invisible a d'autres façons de faire intervenir. Et maintenant, on va écouter Métamorphose par Fabienne Magnan.